Radio Ondaine et la Frappenaloire vous présentent SOS Nature Environnement.
Du fait de notre influence quotidienne sur la nature qui nous entoure, nous favorisons le développement d'une faune généraliste dont les populations s'adaptent à l'étalement urbain. Ce retour de la nature en ville suppose de reconsidérer la notion de partage des milieux dont nous nous sommes depuis toujours attribués la propriété. C'est dans cette optique que la Frappenaloire a lancé la campagne SOS Nature Environnement afin de proposer des actions favorisant une meilleure cohabitation avec la nature qui nous entoure.
Bonjour Kevin. Alors, j'ai l'habitude de me promener sur un sentier champêtre tout près de chez moi et je n'y retourne malheureusement plus car j'ai observé de nombreux frelons voler autour d'un tronc creux d'un arbre. S'agit-il de l'espèce envahissante dont on entend de plus en plus parler ?
Alors oui, c'est vrai que ces dernières années, il y a une espèce effectivement qui est arrivée sur le territoire français, qui a été ramenée sur le territoire français à l'intérieur de poteries dans la région de Limoges. Donc c'est vraiment nous la source française de l'expansion de cette espèce du côté de l'Europe, qui est le frelon asiatique dont on entend beaucoup parler parce qu'en fait il va venir prédater les abeilles domestiques et donc avoir des dommages vraiment assez importants sur des colonies d'abeilles domestiques et donc des dommages, des impacts néfastes sur l'activité des apiculteurs. Dans ton cas, si tu me parles d'un tronc creux, du tronc creux d'un arbre, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse plutôt d'un frelon européen. Parce qu'en fait, on peut le distinguer notamment pour ça, c'est qu'on va avoir une espèce qui va avoir son nid plutôt à la cime des arbres et l'autre espèce, comme qui est le frelon européen, qui va s'installer plutôt dans les arbres creux ou dans les infrastructures et qui va se développer aux abords des infrastructures humaines ou dans les arbres creux.
Alors comment on peut faire la différence entre ces deux espèces, le frelon asiatique et le frelon européen ?
Donc on en parlait justement, c'est la position du nid qui est vraiment qui va faire une différence quand on est à proximité du nid. Donc le frelon asiatique, ça va être vraiment un nid, un énorme nid. Hein. Déjà, ça peut contenir beaucoup plus d'individus que le frelon européen. Et ça va faire un énorme nid en forme de poire qui va se situer dans la cime des arbres. On les voit souvent dans la cime des hauts peupliers, par exemple. C'est dans le 73% des cas que ça arrive à la cime des arbres. Ça peut être également dans 10% des cas dans les bâtiments, 3% les haies, mais ça reste anecdotique. C'est vraiment la cime des arbres qui est le signe distinctif du frelon asiatique. Alors que le frelon européen, comme je le disais, va plutôt avoir des nids qui vont se situer dans le creux des arbres ou alors dans des bâtiments un petit peu plus confinés, des bâtiments un peu plus avec assez haut de plafond où on va pouvoir rencontrer cette espèce-là. Au niveau du nid, toujours, on a l'ouverture qui va être totalement différente également. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ouverture qui va être latérale pour le frelon asiatique, donc ils vont sortir et venir, une piste d'atterrissage continue au niveau du côté du nid, alors que le frelon européen, l'ouverture va vraiment essentiellement se situer vers le bas, et ça se voit très bien quand on approche d'un nid, on voit vraiment les espèces transiter, les individus transiter par le bas ou transiter par les côtés quand on est au niveau d'un frelon asiatique. Donc ça, c'est pour les distinctions quand on est proche du nid. Pour ce qui est des individus, par exemple un individu erratique qui se promène dans la nature, là ça va être au niveau de la coloration. Un petit peu aussi au niveau de la taille, c'est vrai que le frelon asiatique a tendance à être un petit peu plus petit, un petit peu plus petit que le frelon européen, mais ça reste quand même anecdotique. Ce qui va vraiment paraître flagrant aux yeux, c'est l'aspect coloré. Donc le frelon asiatique va avoir un aspect vraiment noir. On va avoir juste le bas de l'abdomen qui va être jaune, estrié, de noir et jaune, mais à l'inverse de la guêpe ou du frelon européen, ça va être une dominance de noir avec une minorité de jaune. A l'inverse, du coup, le frelon européen, lui, va avoir une majorité de jaune avec une minorité de noir. Donc comme ça va ressembler tout simplement à une grosse guêpe au niveau du frelon européen. Et le signe distinctif également, c'est que le frelon européen va avoir le thorax et le dessus de la tête qui vont être roussâtres, donc orangés. Chose que n'a pas du tout le frelon asiatique qui est vraiment d'aspect noir et un petit peu jaune au niveau du bas de l'abdomen.
Alors pour le coup, là tu me confirmes que ce sont sûrement des frelons européens.
Oui.
Au niveau de ma promenade, et tant que les frelons sont là, est-ce que je dois oublier de me promener ? Est-ce que j'évite ce chemin-là, qu'ils s'en prennent à mes enfants, à moi, à mon chien ? On entend souvent la rumeur de 3 piqûres de frelons peuvent tuer un homme et 5 un cheval.
Alors non, aucune crainte à avoir de ce point de vue-là. Tu peux continuer à aller te promener dans cette région-là. Alors évidemment, faut pas trop s'approcher du nid, parce que le nid, voilà, c'est la ville du frelon en question. Et il va de soi que si la ville se sent menacée, les soldats vont sortir pour défendre la ville. Donc il vaut mieux pas s'approcher à moins de 5 mètres du nid, c'est ce qui est conseillé. Par contre, il n'y a aucun souci pour continuer à marcher le long du chemin. Il s'agit d'espèces vraiment très, comment dire, très placides, dans le sens où elles vont pas attaquer sciemment une personne à partir du moment où elle ne se sent pas en danger. Si on fait des mouvements brusques, évidemment, au niveau du nid, ou alors si on a un frelon qui vient vers soi et qu'on fait un mouvement brusque, peut-être qu'il va avoir envie de se défendre. Mais encore là, ça reste rare. Et les problèmes qui peuvent être engendrés par une éventuelle piqûre peuvent être vraiment alarmants que dans le cas d'une réaction allergique. Donc pour les personnes qui vont vraiment être soumises à ces problèmes d'allergie-là, il faut savoir qu'en France, actuellement, on n'a aucun cas de décès connu suite à des piqûres de frelons sur une personne non allergique. Alors que ce soit 3 piqûres, 5 piqûres, 35 piqûres, même des personnes qui se sont fait piquer donc aux abords d'un nid et qui se sont fait piquer par une trentaine d'individus n'en sont pas décédés si elles n'étaient pas allergiques. Les cas de mortalité qui demeurent évidemment très rares chaque année surviennent essentiellement chez des personnes allergiques qui vont développer des gonflements et des réactions qu'on appelle des chocs anaphylactiques qui vont entraîner a posteriori, si vraiment l'individu n'est pas soigné à temps, et peuvent entraîner des arrêts cardiaques, etc. Et là, ça peut entraîner des complications et des décès. Mais ça reste vraiment, j'insiste là-dessus, des cas vraiment isolés et très rares chaque année. Ensuite, encore une autre idée reçue qu'on a, c'est comme le frelon est plus gros, on a tendance à se dire, oui, évidemment, la piqûre fait plus mal, la dose de venin va être plus importante que celui de la guêpe ou de l'abeille. Pas du tout. En fait, pour les guêpes, on va avoir de l'ordre de 2 à 3 microgrammes seulement qui vont être injectés, les guêpes et les frelons, 2 à 3 microgrammes de venin, alors qu'une abeille domestique, par exemple, c'est 50 microgrammes. Donc c'est quand même 25 fois plus. Donc voilà, c'est vraiment une idée reçue qu'on a à ce niveau-là. Les frelons ne piquent pas plus fort qu'une abeille, au contraire. C'est plutôt l'effet inverse. Je le disais, donc espèce très calme et non agressive également. Et voilà, si vraiment tu as peur et que tu continues à avoir peur et que tu te dis, moi je suis une personne un peu phobique à ce niveau-là, j'ai pas envie de trop approcher, ne t'inquiète pas, il suffit d'attendre l'année prochaine. Les nids ne sont jamais réoccupés d'une année sur l'autre. Donc il n'y aura pas de problème l'année prochaine, tu pourras retourner te promener sans problème dans la nature. Et je tiens aussi également à rappeler, pour toutes les personnes qui ont encore peur de ces espèces-là, que ça reste quand même un excellent auxiliaire de culture qui va nous aider, surtout les agriculteurs ou les jardiniers, à se débarrasser de pas mal d'insectes nuisibles en les prédatant pour les offrir à leurs larves, pour que les larves puissent se développer. Les larves sont strictement carnivores, alors que les individus adultes, ensuite, sont plutôt végétariens. Ils vont se nourrir de sucre, de sève ou de fruits. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de conserver ces espèces-là, notamment également parce que c'est la dernière espèce encore rempart qui peut nous protéger de l'envahissement du frelon asiatique qui se déploie de plus en plus sur l'Ouest européen.
Alors justement, on en parle du frelon asiatique. Alors représente-t-il un danger pour l'homme et la biodiversité ?
Alors pour l'homme, non, pas plus que les autres hyménoptères. Donc hyménoptères, je le rappelle, c'est la famille des guêpes, des abeilles, des frelons, mais également des fourmis, ça on ne le sait pas forcément. C'est en fait, hyménoptère, ça veut dire, ça vient de l'ancien grec, donc hymen et ptera, qui veut dire en fait aile membraneuse. Donc c'est pour ça que les fourmis sont également, appartiennent également au même groupe, même si elles... les espèces, j'entends très bien des espèces françaises, ne représentent pas vraiment de danger pour la santé humaine. Donc pas de danger supplémentaire pour l'homme, parce que tout simplement qu'il va injecter la même quantité de venin que le frelon européen. Par contre, pour ce qui est de la biodiversité, c'est toute autre chose. C'est une espèce exotique donc envahissante, comme on peut les appeler, les EEE. Et c'est l'une, je le rappelle, des principales sources d'érosion de la biodiversité mondiale, avec la déforestation, avec la destruction d'habitats, la fragmentation des territoires, la pollution, les changements climatiques, etc. Les espèces exotiques envahissantes tiennent place dans les 5 premières cause mondiale de sources d'érosion de la biodiversité. Donc c'est vraiment un impact très important. Pourquoi ? À l'échelle locale, tout simplement parce qu'ils vont entrer, quand je dis ils, c'est les frelons asiatiques, vont entrer en compétition directe avec les autres hyménoptères. Compétition par la ressource, l'accès à la ressource. C'est-à-dire qu'un endroit où, à l'endroit où on aura davantage de frelons asiatiques, ils vont se nourrir davantage et du coup, moins permettre aux espèces autochtones comme le frelon européen, les guêpes communes, les guêpes des buissons, etc., d'avoir accès à la ressource. Donc ça, c'est très important pour notre biodiversité locale. Ensuite, c'est que, comme on le disait au tout début de l'émission, le frelon asiatique a cette particularité-là, c'est qu'il va beaucoup plus s'attaquer, beaucoup plus prédater les autres hyménoptères. Donc c'est déjà, ce sont déjà des espèces qui sont totalement en déclin, notamment les abeilles. Hein. On en entend souvent parler, que ce soit les abeilles domestiques ou les abeilles sauvages, on sont des individus et des espèces qui sont en déclin. Donc si en plus on ajoute une pression supplémentaire, en plus des pesticides, en plus de la disparition d'habitat, et on ajoute une espèce exotique envahissante qui est prédatrice de cette espèce-là, c'est vraiment dommageable pour la biodiversité qu'on a au niveau des abeilles. Donc ça va être le deuxième impact vraiment fort que le frelon asiatique peut avoir sur notre écosystème. Troisième impact qui va être en fait qui va découler du deuxième, c'est qu'en plus, comme il arrive très récemment, hein, c'est depuis les années 2010-2011 qu'on le retrouve sur le territoire national, et bien en fait, au niveau de l'Asie, les autres hyménoptères, donc les autres abeilles, ont réussi à développer des moyens pour se défendre parce que ça fait des générations que l'espèce prédatrice est là. Mais tout nouveau sur notre territoire, en fait, les abeilles ne savent pas se défendre encore. Elles ne sont pas capables de produire ce moyen d'autodéfense que font les abeilles asiatiques, qui est en fait de créer une boule de chaleur. Donc ça peut être une dizaine, une vingtaine d'abeilles qui vont se mettre autour du frelon asiatique et qui vont faire vrombir leurs ailes tout en même temps et faire augmenter la chaleur à tel point que ça va entraîner le décès du frelon asiatique qui sera sous cette boule de chaleur-là, parce que lui peut résister à des chaleurs moins importantes que l'abeille. Donc ça, on observe un petit peu là, les abeilles domestiques françaises qui essaient de développer ce mécanisme-là, ça reste un petit peu quand même dans les gènes d'autodéfense, mais elles y parviennent pas encore. Donc c'est pour ça que c'est encore plus dommageable, c'est que nos espèces autochtones ne sont pas du tout prêtes et ne sont pas du tout adaptées en termes de patrimoine génétique et de moyens d'autodéfense pour pouvoir se prémunir des attaques du frelon asiatique. Donc oui, c'est une espèce qui peut être dommageable pour notre environnement et je vous invite donc du coup à faire vraiment des signalements dès que vous en observez sur le territoire. Le territoire ligérien n'est pas encore très impacté par la présence du frelon asiatique. Donc souvenez-vous bien, hein, frelon plutôt jaune et orange, ça va être plutôt le frelon européen, frelon asiatique plutôt noir. Donc voilà, si vous pouvez prendre des photos, c'est encore mieux pour faire les signalements. Mais n'hésitez pas à nous le signaler dès que vous voyez vraiment de cette espèce problématique.
Alors, tout en évitant de s'approcher trop près.
Évidemment, évidemment. On évite de s'approcher. Enfin, c'est pas on évite, on ne le fait pas. on ne s'approche pas trop près des nids. Ça, c'est vraiment la problématique principale. Mais si, par exemple, vous avez un individu qui se promène un petit peu, qui s'est posé sur un fruit, ou voilà, si vous voulez le prendre en photo et pour envoyer la photo et aider à l'identification, il n'y a pas de souci.
Alors du coup, où est-ce qu'on peut envoyer ces photos-là et puis où est-ce qu'on peut avoir des compléments d'informations sur ce sujet des frelons ?
Alors, je vous invite à vous diriger vers donc, le site internet www.sos-natureenvironnement.fr. Le E de nature et d'environnement est en conjoint. Vous aurez davantage d'informations sur les espèces en question. Donc je suis en train de créer des petites fiches pratiques qui vont vous permettre voilà, d'en apprendre plus, de balayer les idées reçues toujours et de mieux cohabiter avec ces espèces-là. Et sinon, si on a faire vraiment au frelon asiatique, je vous invite vraiment à vous diriger vers le site du Muséum National d'Histoire Naturelle, donc le MNHN, qui se situe en région parisienne, qui va vraiment centraliser toutes les alertes de frelons asiatiques sur tout le territoire. Donc n'hésitez pas à signaler toutes les observations que vous avez. Il y a une fiche qui est disponible, une fiche PDF sous format PDF qu'on peut remplir très facilement. C'est vraiment très facile et accessible à tous et ça permet de faire évoluer la science et de se rendre compte vraiment de l'expansion actuelle de cette espèce exotique envahissante dans l'Ouest européen.
Merci Kevin, rendez-vous le mois prochain.